Le suspense 1 avec Alain Nadeau.
Bien, donc j'enchaîne avec la première table ronde. Et si c'est la première table ronde, c'est aussi parce que c'est un peu la faute à Nadeau, si nous sommes là autour de cette question. Quand un écrivain d'un seul coup publie un livre qui s'appelle « D'écrire, j'arrête », évidemment, ce n'est pas sans perturber les lecteurs que nous sommes, les amateurs de littérature qui sont ici rassemblés. Et donc, nous allons essayer ensemble de lui faire rendre compte de ce titre. Alors, un mot d'abord pour présenter Alain. Il est l'auteur d'un grand nombre de romans et de nouvelles. Depuis 1984, l'archéologie du zéro, qui a été le premier texte publié chez De Noël. Nouvelles et récits, et aussi auteur d'essais. Il a été aussi le directeur d'une revue littéraire, la revue Quai Voltaire, qui a connu 11 numéros, je crois, au début des années 1990. Et si vous regardez les sommaires de cette revue Quai Voltaire, vous verrez qu'y ont contribué nombre d'écrivains qui sont devenus véritablement des porteurs d'œuvres aujourd'hui, parmi ceux qui constituent, je crois, la vivacité, la richesse de la littérature de ces dernières années, de la littérature qui se déploie encore. Néanmoins, il y avait déjà un tropisme un peu inquiétant, puisque le premier numéro de cette revue Quai Voltaire était un numéro qui portait sur les échecs littéraires.
Les grands échecs littéraires.
Évidemment, oui, l'adjectif corrige un peu la chose. Donc, il faudra peut-être revenir un peu sur ce tropisme-là. Un mot encore pour présenter Alain Nadeau. C'est quelqu'un qui a eu des activités diverses, des activités éditoriales d'une part, puisqu'il a travaillé chez un certain nombre d'éditeurs, et d'autre part, une activité aussi dans des postes culturels à l'étranger, divers pays d'Orient et d'Occident, peut-on dire, et il vit d'ailleurs maintenant en Tunisie. Donc une expérience qui est intéressante aussi à cet égard-là, et nous en dirons un mot, de directeur de revue, d'éditeur, et puis de passeur de littérature. Finalement, dans la figure de cet écrivain qui est à côté de moi, sont rassemblées presque toutes les activités qui peuvent se déployer autour du livre, et ce n'est pas inintéressant de l'entendre aussi à cet égard. Et donc, c'est plutôt autour de « D'écrire, j'arrête » que... à propos des autres textes que Alain a publiés, que nous allons nous entretenir, même si évidemment les autres seront là comme intercesseurs, comme fantômes parfois. Le livre donc évoque un écrivain, dont on peut penser qu'il n'est pas loin de l'auteur, qui au début éprouve comme une sorte de manque d'envie d'écrire, un épuisement du désir qui fait qu'il ne se met pas à sa table comme tous les jours. Il s'installe justement dans le suspens de cette activité. Il arrête d'écrire, mais il l'arrête simplement. Quand je dis simplement, je veux dire qu'il n'y a pas de dramatisation à cet acte. Il n'y a pas cette espèce de dramatisation un peu rabaldienne à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Mais très vite, il est amené à devoir s'en justifier, comme si le fait d'arrêter d'écrire de la part d'un écrivain n'était pas naturel. Je lis un tout petit passage au début du livre. Un de ses amis vient le visiter, ne le voit pas en train d'écrire, mais le voit sur une chaise longue, et ça le perturbe beaucoup. Il dit « Ça alors, qu'est-ce que tu fais là, sur ta chaise longue? Tu n'es pas en train d'écrire ?» Je réponds « Non, pas aujourd'hui. » Ni demain d'ailleurs, ni les jours suivants non plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est simple, j'ai arrêté d'écrire. Bien entendu, c'est simple. Enfin. Allez, cette blague. Non, dis-je, il faut me croire. Tu es vraiment sérieux? Assieds-toi. Et quand il s'est assis, c'est si extraordinaire que ça d'arrêter d'écrire? 30 ans que je publie, ça ne suffit pas? J'ai fait mon lot, non? J'en ai marre. Je cède la place. Et donc... dans ce petit entretien, il me semble qu'il y a déjà quelque chose d'un peu implicite. Est-ce que écrivain, c'est un métier? Est-ce que c'est une activité qu'on peut cesser à un moment ou à un autre, dont on peut changer? Ou est-ce que c'est une injonction, une nature profonde? Est-ce que, finalement, ce petit dialogue ne démasque pas ce fait que nous soyons encore dans une représentation très romantique de l'écrivain, d'une nécessité viscérale et intérieure que l'on ne peut trancher à Alain Nadeau? Qu'en pensez-vous ?
Oui, la question peut paraître simple, parce qu'on commence bien un moment d'écrire, et pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas un autre moment que celui de la mort, pur et simple. Donc c'est vrai que je suis un peu gêné là dans cette ouverture de ce magnifique colloque, de casser l'ambiance un peu. Comme on se tire une balle dans le pied, ou comme on marque un but contre son camp, quoi. C'est un peu ça. Et pourtant, écrire, ce n'est pas, on met pas écrivain sur sa carte de visite comme si c'était un statut social comme ça qui était pour toujours. C'est un état de grâce, et pourquoi pas, cet état de grâce peut à un moment se terminer. C'est-à-dire que il y a à la fois chez moi un sentiment, pas de révolte parce que ça serait un peu trop fort, mais comme on claque la porte, voilà, on dit voilà, j'en ai marre, c'est un peu le bon terme aussi. Et mais aussi, bon, un matin, je me suis réveillé. Je me suis pas couché de bonne heure, mais je me suis réveillé. Et j'ai cessé de croire à la littérature. Voilà, cette croyance que j'avais chevillée au corps depuis mon enfance, des choses que j'ai racontées dans mon itinéraire d'écrivain dans Les Années Mortes, par exemple, dans cette pension où je raconte comment l'écriture m'est arrivée comme ça, comme quelque chose de un peu de surnaturel. Eh bien, voilà, cette envie, ce désir, cette passion tombe d'un coup, comme si des écailles comme ça tombent de mes yeux, et je m'aperçois que j'ai vécu dans une forme de religiosité ou d'autosuggestion par rapport à un mécanisme qui faisait que pendant toutes les années de ma vie, sans tenir compte du jour de l'an, de Noël ou de n'importe quelle fête, tous les matins, j'étais en train d'écrire, on me trouvait en train d'écrire. C'est pour ça la surprise de me trouver sur une chaise longue, alors que c'était pour moi. Et par exemple, toute ma vie, j'ai lutté pour me ménager cette. C'est vrai que j'ai travaillé dans l'édition, mais j'ai jamais été très crédible dans l'édition parce que j'ai toujours voulu être à mi-temps, me gardant cette matinée pour écrire. Et voilà, tout ce que j'ai fait est passé par là. Et puis un jour, alors cette passion tombe brusquement.
Alors justement, le fait que cette passion tombe suscite une sorte de vertige, de questionnement. Et le livre se présente, j'aurais envie de dire, je ne sais pas si tu en seras d'accord Alain, comme une sorte de texte un peu écrit à la 18e siècle. Je pense à Diderot, chaque chapitre est un dialogue avec des figures différentes qui interrogent ce geste de l'arrêt.
Enfin, si je peux, oui, t'interrompre, le tempo en fait m'a été donné par un livre que j'étais jamais arrivé à lire jusqu'ici, et pourtant il est très court, hein, mais c'est un livre qui m'était toujours tombé des mains, alors que je voyais beaucoup de critiques ou d'écrivains considéraient ce livre comme leur livre de chevet, et je l'ai relu, et à ce moment-là je l'ai relu en boucle, mais 50 fois au moment de l'écriture de Décrire j'arrête. C'est le Palude d'André Gide, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais, j'écris Palude, ben voilà.
Voilà, sauf que chez Nadeau, c'est qu'est-ce que tu fais, je n'écris pas, ou plutôt j'arrête d'écrire. Donc il y a effectivement quelque chose qui a bougé. Et chacun de ces dialogues est l'occasion de déplier les différentes raisons d'arrêter. Et l'une des premières raisons qui est évoquée, c'est justement celle dont on reparlera tout à l'heure avec William Marx. C'est l'idée que la littérature, depuis un certain nombre de décennies, sinon de siècles, fantasme sa propre mort. C'est les positions de Blanchot, c'est peut-être aussi celle de Beckett et de l'épuisement que j'évoquais tout à l'heure. On lit page 26, « Le silence est le spectre qui hante toute démarche littéraire dès son origine. Que cette entreprise soit poétique, romanesque ou aussi critique si l'on inclut Maurice Blanchot. » Et tu rappelles, Alain, que l'une de tes nouvelles, un des tout premiers textes, celui dans la revue Minuit, commençait par ce paragraphe. « Ne plus écrire, jamais. Tel était le verdict dont mon corps tout entier clamait la violence contenue, exigeait l'éminence vide, haut le cœur par lequel cette écriture se rejetait en arrière, hors de ses propres lois. On a là l'illustration de ce que William Marx évoque, cette littérature qui fantasme sa propre mort, qui semble conduire au silence. Et la question que je voudrais te poser à cet égard, c'est est-ce que toi, tu avais le sentiment d'être porteur de cette imagerie, de cette idéologie, de cette conception de la littérature en faisant ton œuvre ou pas ?
Non, parce qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire, je ne connaissais pas Blanchot, j'ignorais tout de cette thématique. Mais c'est vrai, c'est quand même symptomatique. Le premier texte que j'ai publié dans la petite revue Minuit, des éditions de Minuit, qui s'appelle Le Chat, commence par ne plus écrire jamais. C'est assez paradoxal, mais en même temps, je crois que ça a été aussi ce qui est en filigrane à travers tout ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que, pour reprendre un langage des années 70, c'est-à-dire je pourrais dire que j'ai été travaillé par le négatif. C'est-à-dire que je ne peux pas affirmer quelque chose sans immédiatement affirmer son contraire. Et si mon premier roman, ça a été un roman sur l'histoire du zéro, c'est pas pour rien. Où on a oublié de citer la tâche aveugle, qui était un premier recueil de nouvelles qui a précédé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du plein quelque part sans qu'il y ait du vide en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose sans qu'il y ait son contraire. Et l'activité d'écrire, c'est une évidence qui ne se joue que dans sa négation. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'elle soit en péril pour exister. Sinon, on est dans la logique du divertissement. Donc, moi, je n'ai écrit que pour me poser à moi-même un certain nombre de questions, peut-être pour résoudre, je ne sais pas, une angoisse, des terreurs, etc. Et donc, je me suis toujours dit... Peut-être qu'à la fin de ce roman-là ou de ce livre-là, je vais avoir répondu à la question que je me pose malgré moi inconsciemment et qu'à ce moment-là, j'arrêterai d'écrire. C'est-à-dire que chaque livre a été accompagné du sentiment que c'était le dernier parce que j'aurais répondu à la question que je me pose.
Alors, il y a, me semble-t-il, toute une génération d'écrivains, la tienne, celle des, je sais pas, des Pierre Michon, des Gérard Massé et quelques autres, qui est une génération, ou Quignard encore, enfin, qui s'est affrontée à ce négatif-là. Peut-être plus qu'une génération d'écrivains plus jeunes qui arrivent aujourd'hui sur la scène littéraire. Et je me souviens, c'était en 87, Philippe Soler s'était avait confié un numéro de la revue L'Infini, celui-ci, numéro 19, qui a pour titre donc, le dossier que tu as rassemblé, auquel contribue un grand nombre d'écrivains qui nous tiennent à cœur. Tu intitules ce dossier « Où en est la littérature ?» Donc cette question que nous voyons réapparaître aujourd'hui était déjà là. Mais ton texte à toi s'appelle « Pour un nouvel imaginaire ». Et donc, est-ce que l'idée était d'en finir avec cet imaginaire négatif que tu viens d'évoquer, d'essayer de trouver quelque chose comme une nouvelle positivité au geste littéraire ?
C'est-à-dire que, non, j'avais l'impression que dans ces années 80, quelque chose de nouveau se déployait par rapport à ce qui avait précédé et par rapport aussi à toute une activité théorique qui avait sévi dans les années 60, 70, etc., qui avait été en même temps peut-être un frein à l'imaginaire. C'est-à-dire que moi, ce texte est un peu innocent, quoi. J'ai traduit mon côté militant en faveur de la littérature comme je l'ai été dans les différentes phases de mon existence, par le fait de créer des revues, d'être directeur du bureau du livre, travailler dans l'édition, etc. Voilà, je croyais en la littérature. J'y croyais dur comme fer, hein, c'est-à-dire ce nouvel imaginaire, il me semblait participer de ce renouveau et de cette affirmation. Et puis il se trouve que ensuite, petit à petit, cette innocence ou cet enthousiasme a été un peu douché à froid, hein, par un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle Malaise dans la littérature. Et que bon, cet enthousiasme, mais que moi que j'ai vécu, que j'ai essayé de vivre pour moi-même, que j'ai observé pour de la part de mes contemporains. Il a existé.
Alors, malaise dans la littérature, ça paraît donc chez Champvallon en 93, et c'est effectivement une réflexion sur ce que la littérature est en train de devenir et qui manifeste à cet égard une inquiétude assez forte. Alors, ce que la littérature est en train de devenir, on peut l'aborder de différentes manières. Il y a d'abord une manière très, très pratique, on pourrait dire presque pragmatique, et qui est très présente au début d'écrire Jarrette, c'est le fait que la littérature perd ses lecteurs. Qu'il n'y a plus d'espace pour elle dans le marché, entre guillemets. Et cette désaffection que tu soulignes peut s'entendre de différentes façons. Soit que la littérature, effectivement, n'entre plus dans ce qui est promu par la société libérale contemporaine, soit qu'elle ne trouve plus d'écho ni de portée pour diverses raisons qu'on peut analyser. Mais ça peut s'entendre aussi d'une autre façon. Quand tu parles de désaffection, tu sembles éprouver comme quelque chose d'extrêmement intime. À un moment, tu évoques le sentiment de la désaffection en faisant entendre le mot d'affection dedans. Et donc le fait de ne pas trouver finalement de répondant à l'adresse qu'est toujours la publication d'un livre. Alors, est-ce que tu veux bien évoquer ces choses-là ? Donc, ce qui appartient finalement à l'évolution de la société, des pratiques culturelles en général, et puis ce qui appartient plutôt à l'attente que l'écrivain peut avoir lorsqu'il publie un livre, de retour à ce qu'il a mis dans ce livre.
Oui, les facteurs qui sont contre la littérature sont innombrables, et là on n'en finirait pas de les énumérer, puisque c'est peut-être par définition une activité contre nature, que quelqu'un s'enferme dans une chambre pour tracer des signes sur du papier, alors que tout le monde pendant ce temps-là est à la plage ou fait les soldes. Voilà, ce n'est pas dans la logique du temps, quoi. Hein, je trouve que énumérer tous les facteurs qui font que la littérature est en perte de vitesse, etc. C'est vrai qu'on a tendance un peu à rabâcher ça avec Internet, la télévision, tout ça. Là, je suis un peu fatigué parce que je pense qu'il y a des raisons qui sont peut-être plus intimes, qui sont plus intéressantes.
Dans l'ordre de la désaffection.
De la désaffection, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que dans un parcours d'écrivain, on croit que... C'est pour ça que j'ai dit, je vais arrêter à la fin du prochain roman, parce que le livre aura satisfait une pulsion, aura répondu à une interrogation. Et peut-être parce que c'est aussi la course vers une forme parfaite qui est impossible à atteindre. Donc il y a sans cesse, on remet sur le métier l'ouvrage parce qu'on voudrait arriver à cet objet parfait, et qui est peut-être une métaphore de la passion amoureuse. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Une aventure sentimentale » où le narrateur parle sur le mode, ça se passe au XVIIe siècle, pour prendre un peu de distance, le narrateur parle de ce qui semble être une femme pour laquelle il éprouve tous les sentiments qui sont ceux de la passion amoureuse, c'est-à-dire le désir, le dépit, la jalousie, la colère, etc. Et ce n'est qu'à la fin du livre qu'on s'aperçoit que cet être dont il est question, en fait, ce n'est pas du tout une femme, c'est la littérature. Donc il y a peut-être aussi dans le processus une surévaluation de l'objet. Par exemple, tout à l'heure, tu as cité un texte là que j'ai pas noté la référence, mais ça m'a frappé parce que tu dis l'union avec l'objet enfin trouvé, hein, qui serait en fait le but de la littérature, de compenser par une activité comme ça complètement dérisoire, c'est-à-dire une plume sur du papier ou un écran ou un clavier, un écran d'ordinateur, un objet enfin trouvé, c'est-à-dire l'objet sublime qui est l'objet. Donc il y a une relation, et c'est peut-être pour ça aussi qui explique qu'à un moment, dans la logique de cette passion amoureuse, eh bien, peut survenir une rupture. On peut dire, voilà, pas d'écrire j'arrête, mais de t'aimer j'arrête aussi. Il y a comme l'expression d'un dépit amoureux ou d'une déception, je sais pas.
Alors, du côté de ces dépits qui relèvent de l'affect, finalement, outre le dépit amoureux qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'œuvre qui serait la figure désirée, il y a une autre figure, un peu un intercesseur, quelque chose comme une triangulation du désir, on pourrait dire, en pensant à René Girard. C'est la figure de l'éditeur sur laquelle tu insistes beaucoup dans le livre d'une part en évoquant ces éditeurs qui à la fois incarnent une sorte de figure du père qui accepte ou refuse, qui bénit ou rejette le manuscrit que tu leur transmets, mais qui en même temps peut-être manque de fidélité en ne suivant pas l'écrivain, en ne le continuant pas à le soutenir. C'est une question sur laquelle tu reviens dans un numéro de la revue Fiction, la revue numérique, où tu parles justement de cette figure de l'éditeur comme celui aussi auquel on adresse le livre à certains égards. Et il me semble qu'il y a là quelque chose comme une ambivalence. À la fois, l'éditeur, c'est cette figure du père, donc qu'on a envie de séduire, auquel on a envie de plaire, mais cette figure du père s'est perdue. Dans la période contemporaine, avec le turnover des directeurs de collection, hein, les grandes figures comme celle de Jérôme Lindon, de Georges Lambrix, de Jean Paulhan ont un peu disparu des maisons actuelles. Sont remplacés, dis-tu, à un moment par des comités de lecture faits de vagues stagiaires qui ne sont pas rémunérés, qui ne connaissent pas grand-chose à la littérature et donc ne sont peut-être pas très bien placés pour en juger. Et l'on sent finalement là comme une ambivalence parce qu'à la fois, il y a cette figure du père qui est évoquée un peu comme castrateur, comme censeur, et en même temps une nostalgie de ce que cette figure-là pouvait représenter. Donc, qu'en est-il à cet égard de la relation de l'écrivain et de ses éditeurs pour quelqu'un comme toi qui, en plus, a beaucoup changé d'éditeur ?
Ben oui, mais bon, c'est un peu... d'ailleurs, dans ce texte, une image m'est venue comme ça, c'est dans le procès de Kafka, c'est la porte de la loi. La porte de la loi derrière laquelle surgit la lumière. Il y a une lumière comme ça et il y a le gardien de la porte de la loi qui est là, qui d'ailleurs n'empêche pas de rentrer à l'intérieur. Mais le personnage voudra bien rentrer, mais il n'ose pas. Hein, et, il lui manque la permission comme ça pour rentrer dans la lumière. Mais en même temps, c'est le fruit d'une expérience personnelle, c'est-à-dire que moi, je suis, après avoir publié quelques livres, je suis rentré dans l'édition, donc j'ai chez De Noël, au moment où Philippe Solers avait créé l'Infini. Et puis, donc moi, dans ma mythologie, finalement, j'étais là pour découvrir des écrivains. D'ailleurs, je m'occupais du service des manuscrits, c'est-à-dire je lisais tous les manuscrits qui arrivaient par la poste. Et c'est là que j'ai rencontré Pierre Michon, qui était un lecteur de mon équipe. Et donc, je pensais que j'étais vraiment au service de la littérature. C'est comme un sacerdoce, quoi, comme une sorte d'abnégation. J'emportais même les manuscrits chez moi le soir, tout ça. Et puis, pour des raisons... donc, je pensais que j'étais là à la mode traditionnelle pour longtemps. Hein, que c'était un travail de longue haleine qui allait me mener là. Et puis pour des circonstances complètement étrangères à l'édition, on a tous été licenciés au bout de 3 ans, c'était les charrettes successives, et tout mon trajet dans l'édition n'a été comme ça qu'une suite d'aller et venu pour des raisons autres que littéraires, c'est-à-dire que c'était pas la littérature qui était en question, c'était des questions d'argent, des questions de susceptibilité, de vanité, de fait de dire des choses qu'il fallait pas dire au moment où il fallait pas, etc. Donc c'est tout un processus un peu compliqué qui fait que je trouve que c'est un miracle que la littérature aujourd'hui encore continue à survivre dans des conditions pareilles, et elle survit malgré tout.
Alors justement, dans ce livre, il y a aussi la manifestation de quelque chose comme une colère vis-à-vis de ce sort qui est fait à la littérature dans la société contemporaine. Et parmi les raisons diverses d'arrêter d'écrire, il y en a une que tu évoques, c'est page 80, tu dis « Finalement, c'est aussi pour marquer ce décalage, manifester ma désapprobation que j'arrête. » Tout à l'heure, tu as employé la formule « claquer la porte ». Et donc, arrêter d'écrire, c'est poser un acte de révolte, de refus, c'est-à-dire peut-être continuer cette critique que tu avais manifestée dans Malaise dans la littérature, que tu as manifestée à ce moment-là par la publication d'un livre, et que maintenant tu continues par ce geste et l'affichage de ce geste.
Oui, mais il ne faut pas se faire d'illusions, hein, ça n'impressionne personne. Hein. C'est, au contraire, dans les regards des autres écrivains, où on sent, ah ben voilà, ça en fait un concurrent de moins, quoi. Des critiques littéraires, ben voilà, ça fait un livre de moins, ça fera. Ça ne fait de peine à personne. Et bon, même si les gens sont gentils, me disent « Oui, oh, c'est pas possible que tu arrêtes d'écrire, tout ça. » Mais plus... disons plus... Je me demande aussi si moi-même, j'ai pas été... Il y a d'autres raisons qu'on n'a pas évoquées. Je ne me suis pas laissé prendre moi-même au piège de la fiction, c'est-à-dire dans un roman comme Le Passage du Col, qui est un écrivain qui est au Tibet, et qui voyage dans le Tibet, qui fait des rêves étranges et qui se trouve par ses rêves projeté dans ses vies antérieures et dans tous les rêves qu'il fait et tous les rêves qui lui viennent à l'esprit, il est question d'écrivains dans l'histoire qui l'ont précédé et qui sont tous des écrivains ratés. Ou qui, pour des raisons ou d'autres, ne sont pas arrivés à produire le livre qu'ils auraient rêvé d'écrire. Et lui serait, dans cette lignée des Renaissances, un peu le dernier à pouvoir écrire un livre en reprenant toutes les qualités de ceux qui l'ont précédé. Et donc, finalement, dans Le Passage du Col, il écrit le livre qui est son dernier livre, parce que par là, il échappe en quelque sorte à la roue des Renaissances et ce qui lui permet d'écrire ce qui est arrivé dans la réalité. Hein, c'est-à-dire, si je me demande si la fiction n'a pas eu un effet de réel tel qu'elle a produit une vraie réalité qui est l'aphasie. En même temps, je crois que... La question de la croyance, elle me paraît... Il faut y croire. Et à partir du moment où on n'y croit plus, l'écriture ne fonctionne plus, la littérature ne fonctionne plus. Je me demande, par exemple, si... En réfléchissant sur cette question, par exemple, quand je m'interroge sur mon accès à l'écriture, quand j'étais en pension, j'avais quoi, 10 ans, 11 ans, 12 ans, je me demande si je ne me suis pas converti à la littérature, même si ça n'a pas abouti tout de suite, au moment où j'ai perdu la foi, hein, à partir du moment où la question de Dieu n'a plus été opérante. Et je me demande si on ne peut pas établir un rapport entre la croyance en la littérature et la croyance en Dieu. Par exemple, je prends un ouvrage comme l'épopée de Gilgamesh, qui est peut-être l'épopée babylonienne, qui est peut-être la plus ancienne œuvre littéraire que l'on connaisse, où le roi Gilgamesh perd son meilleur ami, Enkidu, et part à sa recherche. Et pour partir à sa recherche, eh bien, il descend dans les enfers et il va rechercher son ami. Et je me suis demandé si finalement cette œuvre-là, qui est emblématique, qui est au fondement même de la littérature, on ne l'a pas assez interrogée parce qu'elle est... Elle est emblématique d'une terreur, de ce que l'on ne puisse pas répondre à des questions, et que c'est par la littérature ou par l'imaginaire. Alors, tu as cité l'article « Pour un nouvel imaginaire », mais je pense que l'humanité, tout au long de son parcours, n'a pas arrêté d'écrire des romans sous des formes diverses par rapport à cette énigme qui est le fait qu'on va finir un jour dans un trou dans la terre. Eh bien, immédiatement... L'imaginaire humain s'est mis en marche par des superstitions, par l'animisme, par le mythe, par les religions instituées, puis révélées, etc. C'est-à-dire que, et plus cette question inacceptable que la vie va s'arrêter et qu'on va mourir et n'être bientôt plus rien, plus cette question est inacceptable et plus l'imaginaire est délirant, plus les cosmogonies que tous les peuples ont inventé pour expliquer la création du monde ou la création de l'homme ou qu'est-ce qu'on allait devenir après, plus on a des œuvres qui défient, qui sont des vraies fantasmagories. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, enfin je schématise tout ça, hein, c'est peut-être des élucubrations, mais qu'on avance dans l'histoire, dans notre histoire contemporaine. D'ailleurs, la littérature avec un grand L est une invention récente. Jamais au XVIe ou au XVIIe siècle, on se serait posé la question de qu'est-ce que la littérature, etc. Même si elle était pratiquée, le concept même n'existait pas. Et peut-être c'est un concept qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure que peut-être la religion perdait du terrain et qu'on n'arrivait pas à répondre à cette question. Alors, les questions de postérité que se pose l'écrivain sont peut-être des succès d'années de la résurrection des corps et du jugement dernier, etc. Peut-être il y a un jugement dernier que la littérature porte. Et je cite Georges-Louis Borges, par exemple, qui pensait que la littérature était ce vaste courant dans lequel toutes les existences des écrivains venaient se fondre comme une sorte de déité à la fois... extraordinaire et monstrueuse, mais qui, à partir du moment où tout d'un coup on n'y croit plus, eh bien, on tombe dans l'athéisme.
Oui, alors c'est ce que tu viens de dire là, pour tous ceux qui sont ici présents et qui n'ont pas encore eu la chance de lire tes textes, je crois que ça décrit très bien l'entreprise littéraire qui est la tienne, de ce que tu as appelé des romans d'aventure métaphysique, c'est-à-dire en fait des textes qui interrogent l'origine de quantité d'activités, d'inquiétudes, de manifestations humaines, donc l'origine du zéro, l'archéologie du zéro dans le livre qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi la première bibliothèque, mais aussi les tablettes de la loi et quantité d'autres références qui sont aussi du côté du mythe, avec les portes des enfers. Enfin, on a là finalement toute la palette d'interrogations qui ont jalonné tes textes. Et il y a un moment dans D'écrire, j'arrête, où tu dis que finalement, cette littérature-là d'aventure métaphysique qui suppose une forme d'exigence et puis peut-être aussi une forme de culture et de complexité dans un monde aussi désenchanté que le nôtre, est une littérature qui peut-être n'a plus sa place. Hein ? Pourquoi n'ont-ils plus d'audience, dis-tu, à propos de tes romans, mystère ? Une époque qui ne s'y prêtait guère, accaparée par trop de choses futiles, des sujets abstraits, pas assez dans l'air du temps, des livres à l'architecture trop complexes. Est-ce qu'il te semble que notre temps n'est plus accueillant à ce type d'interrogation-là, qu'il a décidé d'en faire abstraction, pour le coup, et de se tourner vers, finalement, des interrogations plus immédiates hein ?
Oui, mais bon, il y a peut-être un mouvement de pendule comme ça, et donc le pendule, là, il est parti vraiment très loin dans un sens. Mais à la fin de malaise dans la littérature, je me posais tout simplement la question de savoir peut-être une société n'a pas ou n'a plus l'intention de se reconnaître dans sa littérature. Après tout, c'est légitime, c'est pas une obligation. Hein, peut-être une société peut se reconnaître dans d'autres formes d'expression que la littérature. Ça peut être, je ne sais pas, le cinéma ou Internet, tout ça. Enfin, mais de toute façon, et cette société, à partir du moment où elle entre dans cette position-là, il faut savoir qu'elle court un grand danger psychologique. Parce que plus personne ne sera là pour lui... pour la tenir en alerte et lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Quoi. C'est, donc là, on rentre dans une sorte de no man's land assez terrifiant. Et j'espère que là, à ce moment-là, le pendule reviendra dans l'autre sens.
Il y a d'ailleurs un chapitre sur lequel je voudrais attirer l'attention aussi, avant de éventuellement demander si vous avez des questions. C'est ce chapitre au cours d'une fête amicale, à l'occasion d'un anniversaire, si je me souviens bien, dans D'écrire, j'arrête. Où, alors, le livre est situé en Tunisie, là où habite Alain Nadeau, et le livre a été écrit peu de temps avant les événements que vous connaissez. Et il y a deux discours qui s'affrontent lors de cette fête d'anniversaire, ce qui me faisait penser justement à ces structures de textes du XVIIIe siècle. Un discours qui est un discours qu'on pourrait dire français, entre guillemets, blanchotien, d'une certaine poésie aussi chez nous, qui est le discours que j'évoquais tout à l'heure, d'une littérature qui est hantée par son négatif, qui vise à son propre silence, on en a parlé. Et puis du côté des écrivains tunisiens, cette fois, l'évocation d'un autre silence, qui est le silence imposé par la censure politique, qui était encore en vigueur en Tunisie et dont on peut craindre qu'elle le soit à nouveau pour d'autres raisons. Et cet affrontement de deux silences de nature extrêmement diverse et je crois, d'une très grande puissance à l'intérieur du texte. Comment est-ce qu'on peut conjuguer cette négativité assez esthétique, finalement, ontologique de la littérature, avec une négativité imposée, qui serait celle-là idéologique, et non pas ontologique, contextuelle, politique. Est-ce que tu veux dire un mot de ces deux silences qui s'affrontent, l'un que l'on combat et l'autre que l'on espère ?
Oui, de ce point de vue-là, le silence est une sorte, enfin, tel que je l'ai exprimé comme ça, de luxe d'occidental, hein. Parce que on est comme on va pas voter en démocratie parce que pourquoi aller voter tout ça alors que dans d'autres pays les gens meurent pour ça, hein. Donc c'est bien joli, arrêter d'écrire, bien sûr, ça fait s'esclaffer tout le monde, parce que j'écrivais ça dans un contexte politique où les gens ne pouvaient pas écrire. D'ailleurs, il y a pas énormément d'écrivains tunisiens, hein, on les compte sur les doigts de la main, parce que la censure était telle que c'était pas une activité très très gratifiante. D'ailleurs, moi, même d'écrire, j'arrête. Ça a été en début janvier de 2011. Donc, j'avais dégoté deux conférences pour présenter le livre, dont l'une à l'Institut français de coopération. Et tous les livres étaient bloqués depuis le mois de septembre sur le quai par la censure, parce qu'il y avait dans les conteneurs de livres à destination des libraires tunisiens, il y avait un livre où il y avait une caricature de Ben Ali. Donc toute la rentrée littéraire et tous les livres étaient sur le quai depuis 4 mois. Donc moi, quand je suis venu présenter ce livre, j'ai tout chargé dans mes valises et j'ai passé la douane comme ça, sans savoir que la conférence, je l'ai faite le 12 janvier, le 14 janvier, c'était la révolution. Heureusement, peut-être, parce que un livre qui passe sans être visé par la censure est un livre interdit. Donc c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures, mais bon... Il n'empêche que même si pour certains écrivains c'est un tunisien, le silence est une contrainte. Bon, les deux questions se chevauchent et elles peuvent être comprises par les deux en même temps.
Oui,
et
puis elles ne sont pas sur le même registre, bien sûr. Quelques questions peut-être avant de passer à la table suivante. Je vois pas bien le public. Oui, il y a une question là-bas.
Merci. Bon, en fait, c'est une question peut-être qui s'adresse un peu à tout le monde, hein, finalement. Mais c'est vrai que ça m'étonne. Je trouve ça incompréhensible d'une certaine façon qu'il semble qu'il ne soit plus possible, voire plus nécessaire d'écrire. Enfin, disons que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de raisons qu'il y ait des Balzac, etc., Stendhal et autres, et des Dostoïevski, etc. Bon. Et puis au point de vue, disons, plus intime de la subjectivité individuelle, etc., on peut penser que dans notre monde d'aujourd'hui, il y a même plus de possibilités de richesse de ce point de vue-là que dans les sociétés plus traditionnelles, où il y a des cadres, des conventions, etc. Mais finalement, justement, j'étais en train de me dire, cette absence, a priori, de cadres, de conventions, enfin dans le libéralisme, justement, c'est ce qui caractérise la société libérale. Est-ce que c'est pas ça qui ferait qu'au fond, il y a une espèce d'effondrement
Bon. Oui, parce que écrire, c'est facile, hein. Il suffit de prendre une plume et de se mettre sur le papier. Le problème le commence à partir du moment où on veut être lu et on veut publier. Donc là, c'est une autre paire de manches. Alors, il y a eu cette phrase qui a été prononcée pendant les événements... là, comme ça, de Tunisie, où on dit la dictature brûle les livres et la démocratie ou les noix. Hein, c'est-à-dire que finalement, il y a une telle uniformité qu'on ne peut plus se repérer. Il y a une perte de repères qui fait que on ne s'y retrouve plus. Donc finalement, c'est comme si ça n'existait pas.
Une autre question peut-être ?
Oui, moi je voulais dire simplement pour répondre à cette question que la façon dont vous avez formulé donc, votre propre proposition est tout à fait honnête à partir du moment où vous dites que vous cessez d'écrire parce que vous cessez d'avoir une croyance à un moment donné et où en effet l'écriture dans la société qui est la nôtre mais depuis longtemps, enfin, je veux dire, c'est une affaire assez longue, hein, ne peut plus être conçue comme un métier qu'on n'aurait pas abandonné ou quoi que ce soit, mais elle relève d'un état de grâce. Donc à partir du moment où vous n'éprouvez pas cette disposition-là, il est normal que vous puissiez vous retirer au moins au moment où... Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez très bien évoqué les conditions dans lesquelles l'écœurement vous est venu dans une pratique éditoriale où vous voyez la littérature dépendre de facteurs absolument extérieurs à elle-même, c'est-à-dire des affaires de licenciement, des heurts personnelles, etc. Enfin, toutes sortes de choses qui étaient complètement extérieures à la question. Et ça, je crois que c'est une réalité qui intervient au-delà de tous les problèmes théoriques qu'on pourrait se poser à partir de Blanchot. Et à mon avis, ça n'a rien à voir. Et c'est un problème très sérieux. Et je pense qu'il est important de pouvoir le dire à titre individuel sans que des conséquences en soient tirées sur l'impossibilité générale d'écrire. C'est autre chose, quoi. Hein, donc je crois que dire à un moment donné, moi, je n'écris pas parce que j'ai écrit en état de grâce et je ne pouvais pas le faire autrement, c'est important de pouvoir le dire aussi et qu'on comprenne quelle conception de la littérature est sous-jacente. Vous avez parlé de croyance, vous avez associé cette croyance à la religion. Bien évidemment, la littérature est liée dans la période moderne, c'est-à-dire depuis le romantisme, à un absolu. Mmh. Hein, et donc, c'est par rapport à ça qu'un engagement individuel prend sens.
En fait, la question est celle-ci, je crois, c'est que il y a effectivement une sorte d'absolu, voire de sacralisation, si l'on veut, de la littérature, mais cet absolu s'affronte aujourd'hui à la relativité des contraintes extérieures. Et les deux choses sont bien sûr des plans complètement différents, un plan économique d'un côté et un plan ontologique de l'autre, mais il y a une interaction quand même entre les deux. Et je pense que la réflexion ontologique sur la littérature ne peut pas faire abstraction des circonstances qui sont les siennes. Et inversement, les circonstances qui sont faites à la littérature influent aussi sur la conception, l'idée qu'on peut avoir de la littérature. C'est pour ça que je voulais évoquer ce fameux chapitre des deux silences qui finalement se heurtent, hein, et doivent chercher aussi quelque part à composer leurs critiques les unes avec les autres. Oui, une question encore ici en bas. Non, Patrick ?
Oui, je voulais savoir dans quelle mesure la notion de, enfin, la réception et ce qu'on appelle un peu grossièrement le succès en littérature peut jouer dans une décision la décision un peu dramatisée, volontairement dramatisée, du fait d'arrêter d'écrire. Ça, c'est la première question. Et une remarque juste, un tout petit peu parallèle, sur la notion précisément, vous avez parlé la notion a été reprise, de religiosité. Est-ce qu'il n'y a pas là un mythe fondamental qu'il faudrait peut-être dénoncer certains auteurs ont parlé de terrorisme ou de terreur, un terrorisme qui s'ignorerait lui-même, tel que le romantisme ou le surréalisme ont été l'illustration. Donc, d'une part, la notion un peu prosaïque de réception et de succès, et d'autre part, le mythe peut-être un peu trop fondateur et peut-être à dénoncer en tant que tel de cette religiosité.
Oui, d'ailleurs, dans les postures des écrivains, on a toutes les postures qu'on peut avoir par rapport à la religion. Par exemple, on a les ermites, quoi, les écrivains qui Bon, on a cité Blanchot, on pourrait en citer d'autres. Il y a les Illuminés, il y a les Renégats, on a parlé de Rimbaud, toute la posture par rapport à la religion se décline sur le mode comme ça des écrivains par rapport à la religion. Alors, justement, Blanchot, par exemple, le livre, alors, peut-être, c'est comme l'écriture serait comme une prière que l'on accomplirait tous les matins, adressée à cette grande déité, cette grande divinité supérieure qu'est la littérature, à laquelle, comme dans la religion d'ailleurs, on ne peut jamais accéder. Il n'y a pas de fusion possible, il n'y a pas de communion avec sans cesse l'œuvre est déceptive par principe. Et les livres sont comme des petits tabernacles où la littérature réside ou ne réside pas, si elle se donne la grâce de venir résider par la beauté du style, etc.
Il me semble qu'on peut ajouter à cette réponse une observation sur le mouvement général. Alors évidemment, il y a toutes sortes d'exceptions, mais le mouvement général de la littérature depuis un certain nombre d'années, qui serait passé d'une littérature qu'on pourrait dire régulière, au sens où c'est une littérature qui travaillait ses propres règles, et je pense ici à la littérature formaliste notamment, à la littérature qui se sécularise à nouveau et qui se redonne des objets extérieurs à elle-même, interroge les réalités sociales, humaines, historiques, enfin qui sont les nôtres. Et du coup, il y a là aussi des inversions, des conceptions même du geste littéraire qui rentrent en jeu, enfin, je crois.
Et par rapport au succès ou à l'insuccès, c'est vrai que la question peut se poser, mais en même temps, compte tenu de la nature des livres que j'écrivais, je ne me faisais pas non plus énormément d'illusions. Donc je ne me suis jamais senti pris dans une logique commerciale effrénée. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de m'y tenir jusqu'au bout, jusqu'au moment où j'ai lâché prise, quoi.
Je pense qu'on va peut-être... Non. Ah
oui. Oui, je voulais, Anser, je voulais vous demander qu'allez-vous faire ? Parce que écrire, on sait bien qu'il ne s'agit pas évidemment d'une activité, c'est une manière de vivre. Donc, vous avez une croyance jusqu'à 12 ans qui était une croyance en Dieu. Vous l'avez remplacée très heureusement par une croyance en la littérature. Il en faut peut-être une pour continuer. Alors, voilà, donc, qu'allez-vous faire et en quoi croyez-vous désormais ?
Oui, alors, est-ce qu'il est possible, la question que je me pose, qui reste en suspens, c'est est-ce qu'il est possible d'écrire lucidement, c'est-à-dire en dehors de cette espèce d'état d'auto-suggestion ou d'auto-hallucination. Plus pratiquement, c'est vrai que maintenant, mes matinées, c'est un vrai problème pour moi. Je ne sais plus quoi foutre, quoi. Alors, à la fin d'écrire J'arrête, là aussi, je me suis pris au jeu de la fiction. À la fin d'écrire J'arrête, le narrateur achète un bateau, a le projet d'acheter un bateau. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un voilier, je me suis mis à passer les permis et je compte larguer les amarres dès que les beaux jours arriveront. Et la navigation est quelque chose qui occupe bien la tête, donc ça me servira peut-être une année ou deux, je ne sais pas, en attendant.
Après avoir navigué d'éditeur en éditeur. Je suis désolé de ne pas pouvoir prendre les dernières questions, puisqu'il faut quand même qu'on respecte le programme d'après-midi, mais je ne voudrais pas clore... Ah, pardon. On a le temps, c'est la directrice qui décide.
C'est juste pour allumer en fait une espèce de contre-feu. J'ai suivi votre débat avec énormément d'attention et en même temps, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec cette vision qui m'apparaît stéréotypée à Alain Nadeau quand vous dites qu'il y a eu ce moment donné où la théorie s'évissait, où Blanchot, et j'entends bien ça aussi dans le discours de Dominique Viard, où il y aurait la littérature de l'épuisement, du négatif, de la mort avec Blanchot. Et puis... finalement, aujourd'hui, il s'agirait de revenir à des positivités. Je caricature évidemment votre position.
C'était pas aujourd'hui,
c'est pas que la caricature, je l'accentue. Mais d'abord, je pense pas du tout personnellement que ni Beckett ni Blanchot ne soient du côté de l'épuisement, parce qu'il s'agit bien de continuer à écrire et de s'acheminer vers l'interminable et vers l'incessant. Est-ce qu'on ne parle pas plutôt là d'une mythologie qu'on a surimposée à toute une forme de modernité. Et puis, il s'agirait aujourd'hui de restituer du sujet, de la narration. Et puis, juste une dernière chose, il me semble que si la littérature a des problèmes en ce moment, bah, pour moi, il me semble que c'est globalement à cause d'un marché qui nous impose des produits de plus en plus formatés. Il suffit de lire les analyses de Michel Deguy sur ce qu'il appelle le culturel. La littérature, elle ne crève pas d'années théoriques qui l'auraient desséchée, stérilisée, je sais bien que vous pensez pas ça, et appauvrie en fiction constituante. On n'est pas à la fin des grands récits. On est dans une époque où économiquement, socialement, politiquement, bah, un écrivain qui veut produire des formes se retrouve dans une posture de minorité qu'il va lui falloir assumer. Est-ce que ça serait pas ça la question ?
Il y a ça aussi, oui, c'est vrai.
Alors, pour terminer la table, je vais juste demander, et pour que vous entendiez aussi un peu Alain lire, Alain de lire un petit, tout petit passage qui, je crois, peut servir aussi de conclusion provisoire à notre débat.
Ah, j'ai pas été prévenu, là. Je sais pas ce que je vais lire, alors. Mais là, c'est au milieu d'une phrase là, que tu me fais commencer.
C'est pas grave, hein, ça marche quand même.
J'étais comme pris à la gorge par une pratique dont je ne parvenais pas à me rendre maître, dont je ne comprenais ni l'usage ni la destination. Je me sois résolu à devenir... Voilà, c'est la phrase est incompréhensible, alors, prise comme ça. Voilà. Certes, il me faut bien l'admettre. Si je remonte en amont, un jour il se peut que, par pure vanité, pour me sortir du lot et faire l'intéressant, ou parce que j'étais comme pris à la gorge par une pratique dont je ne parvenais pas à me rendre maître, dont je ne comprenais ni l'usage ni la destination, je me sois résolu à devenir écrivain. Mais pour autant, et à l'inverse, est-ce que d'écrire, j'ai jamais pris la décision ? Justement, non. Or, il y a pourtant bien une sacrée différence entre les deux. L'écriture ne m'a-t-elle pas été imposée ? Est-ce qu'elle n'était pas tapie en moi dès l'origine, sans que j'aie eu mon mot à dire ? Longtemps, je me suis débattu avec elle, sans savoir qu'en faire, comme avec une chose en trop. Activité compulsive, parasitaire, qui ne m'a laissé nul répit. Pourquoi alors chercher plus loin ? Prendre la décision de la placer au centre de sa vie, et par là même la reconnaître pour ce qu'elle est, n'est-ce pas cela justement qu'on appelle être écrivain ?
Merci Alain.